France Inter, il est 7h.
Allez, mon fils, allez.
Bonjour Nicolas Demorand.
Bonjour.
Moi, c'est Mathilde.
Sœur Mathilde. France Inter, 7h.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-10.
Jeudi 25 avril, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, c'est l'un des otages les plus connus en Israël.
Le Hamas a publié hier la vidéo de ce jeune homme de 23 ans provoquant une manifestation sous les fenêtres de Benjamin Netanyahou. Nous sommes à Jérusalem dès le début du journal. Journée noire dans le ciel français, des centaines de vols annulés à cause de la grève des contrôleurs. Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe ce matin, quelques semaines des élections européennes. Et puis Ariane 6, debout à Kourou, et encore beaucoup de tests avant le lancement inaugural.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50. Bonjour Sonia De Villers.
Bonjour à tous. Je reçois José Bové, ancien député européen, et Bully Lanners, l'acteur qui joue José Bové au cinéma dans une sorte de thriller ultra réaliste. Le scandale des lobbies du tabac infiltré jusqu'au plus haut de la Commission européenne. L'affaire avait éclaté en 2013. Bové Lanners, concours de moustaches à 7h50.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec Elisabeth Badinter pour son livre « Messieurs, encore un effort » paru chez Flammarion Plon. Et à 9h20, Léa Salamé reçoit le comédien réalisateur Artus pour son film « Un petit truc en plus ».
France Inter.
C'est la première fois depuis plus de 200 jours qu'ils entendent le son de sa voix. Les parents de ce jeune homme, otage du Hamas depuis le 7 octobre, il avait été enlevé lors du festival de musique. Hier, le groupe terroriste a diffusé une vidéo dans laquelle il demande, évidemment sous la contrainte, à son gouvernement de tout faire pour le libérer. Ce n'est pas la première vidéo d'otage diffusée par les groupes armés palestiniens. Elle vise bien sûr à faire pression sur Israël pour une trêve. Et elle a provoqué hier la fureur de dizaines de manifestants qui sont spontanément descendu dans la rue hier soir. Notre correspondant Thibault Lefebvre était sur place.
À Jérusalem, son visage souriant, juvénile, photographié de trois quarts et sur tous les murs, et notamment ceux de son bar préféré, le Sira, le repère de la jeunesse de gauche en plein centre-ville. Et c'est cette jeunesse qui est sortie hier soir pour d'abord manifester devant la résidence de Benjamin Netanyahou et puis interpeller le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, qui sortait de la grande synagogue peu de temps avant. Les parents de Hersh Goldberg-Pauline, Rachel et John, ont pris la parole dans une vidéo tournée chez eux pour demander au plus vite une trêve.
Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel. Il s'adresse à tous les leaders engagés dans les négociations. Le Qatar, l'Égypte, les États-Unis, le Hamas et Israël. Soyez courageux, saisissez cette opportunité et trouvez un accord pour que nous puissions retrouver nos proches et mettre fin aux souffrances dans la région.
La maman, Rachel, a le dernier mot.
And Hersh, if you can hear this,
et demande sobrement à son fils et avec beaucoup de dignité de rester fort et de survivre.
Stay strong, survive.
Le cabinet de guerre israélien doit se réunir aujourd'hui pour discuter des négociations et tenter de sortir de l'impasse.
Selon Israël, 129 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza, 34 seraient morts. Israël qui a lancé hier une action sur le sud du Liban et qui se prépare pour une opération à Rafah, alors que la Maison-Blanche a demandé hier une enquête transparente sur les fosses communes découvertes dans deux hôpitaux de Gaza. Washington qui va envoyer dans les prochaines heures une nouvelle aide militaire à l'Ukraine, en particulier des missiles de longue portée pour contrer ceux utilisés par la Russie et fournis par la Corée du Nord. L'Ukraine qui a décidé hier de ne plus délivrer de passeport à l'étranger aux hommes âgés de 18 à 60 ans, alors que le pays a cruellement besoin de soldats.
Il est 7h04, des centaines de milliers de passagers, Anaïs, dans le flou ce matin.
Oui, dans les aéroports français et européens, des milliers de vols sont annulés ou retardés. Trafic aérien très perturbé malgré la levée in extremis hier du préavis de grève d'un syndicat de contrôleurs aériens français. L'un des trois autres maintient, lui, sa grève. Bonjour Mariam El Kurdi.
Bonjour.
Vous êtes à l'aéroport d'Orly. 3 vols sur 4 supprimés, du jamais vu depuis une vingtaine d'années.
Oui, c'est la déception sur le visage de Shana, 20 ans, petite valise noire à la main. Elle avait un vol à 6h du matin pour la Crète, mais son vol ne décollera pas.
Donc il a été annulé, donc on attend. Là, je suis en train de boire pour un vol à Lyon. Mais ça fait du trajet et j'ai aucune garantie qu'il ne soit pas annulé aussi. Donc, on attend d'avoir un peu plus d'infos.
Vous l'avez su quand, comment,
que
vous...
En arrivant ici. Au début, je pensais que c'était une blague. Et puis après, j'ai vu la tête de la dame. J'ai dit non, c'est pas une blague.
Elle attend donc, espérant trouver une solution B pour sauver ses vacances, mais a du mal à digérer.
Ça fout un peu les nerfs quand même dès le matin, on n'a pas dormi de la nuit, on arrive, on est content de prendre notre avion et puis annulé.
Et là, le prochain vol potentiel que vous pourriez prendre, ce serait quoi?
Le 27, dans deux jours.
Il y aurait le vol pour Lyon, c'est ça que vous pourriez prendre?
C'est ça, à 15h40. Sous réserve qu'il ne soit pas annulé aussi, parce que j'ai aucune garantie non plus.
La galère quoi.
La galère.
Et la journée semble pourtant normale ici au Terminal 3. Sur le tableau d'affichage, seuls les vols maintenus apparaissent. Mais des passagers comme Shana, l'agent d'escale Willen, on a vu défiler une bonne vingtaine en une heure.
C'est pas la première et je pense pas que ce soit la dernière de la journée. Voilà, on n'a pas le choix. On peut que leur annoncer la mauvaise nouvelle.
Mauvaise nouvelle d'autant plus surprenante que la direction et les syndicats se sont mis d'accord pour reprendre les négociations sur des revalorisations salariales.
Mariam El Kurdi en direct d'Orly avec Marc Garvenès. 2 millions de bouteilles de Perrier détruites par Nestlé. Le groupe propriétaire de la marque d'eau gazeuse y a découvert des bactéries d'origine fécale. Selon Nestlé, c'est à cause d'une contamination ponctuelle suite aux fortes pluies du 10 mars dans la région de Nîmes. Après Béziers, Nice, après Pointe-à-Pitre, voilà maintenant la commune de Penne-Mirabeau près de Marseille qui impose un couvre-feu pour les moins de 13 ans à partir de ce soir de 23h à 6h et jusqu'au 31 août, instauré par le maire d'hiver droite pour appliquer, dit-il, le sursaut d'autorité prôné par Gabriel Attal. Le Premier ministre en retrait pour l'instant dans la campagne des européennes. À 6 semaines du scrutin, c'est le chef de l'État qui entre dans la bataille avec un discours d'une heure sur l'Europe. C'est ce matin à 11h à la Sorbonne devant les ambassadeurs des 26 autres États membres. Quel regard portent d'ailleurs les eurodéputés des pays voisins sur le bilan d'Emmanuel Macron? Et Angélique Bouin leur a posé la question.
Au Parlement, l'engagement européen du président français est souvent salué, y compris en dehors de sa famille politique. Maria Marques est portugaise et socialiste.
Quelquefois, je ne suis pas d'accord, mais de toute façon, je pense qu'il a contribué positivement pour l'Europe.
Même analyse chez Andreas Schwab, membre de la droite allemande, mais il regrette tout de même son manque de pouvoir de conviction auprès des Français, dit-il, et de ses partenaires.
Macron a toujours démontré une très grande ambition européenne. Et malheureusement, avec M. Scholz, c'était trop difficile. Il n'a pas pu convaincre.
Chez les Verts, l'engagement écologique du chef de l'État avait séduit en début de mandat l'Allemande Anna de Parnay, mais au fil du temps, il l'a beaucoup déçu.
On a un peu désenchanté et on a vu aussi utiliser l'Europe pour des fins complètement françaises. Sur le nucléaire, ça s'est senti dans toutes les discussions. C'est difficile.
À l'extrême droite, beaucoup associent le président Macron au bilan de la Commission. Gérald Falmans est belge et siège avec les élus du RN.
On ne peut pas continuer comme ça, dans la voie globaliste, éco-fanatique, etc. Les Français doivent se débarrasser de Macron. Nous allons essayer de nous débarrasser de von der Leyen.
Ces eurodéputés n'écouteront pas le discours d'Emmanuel Macron. Ils seront en plénière pour la dernière séance de vote de la mandature.
Angélique Bouin à Strasbourg pour Inter. Eux ont rejoint l'Europe en 1986. Les Portugais qui, 3 ans après la révolution des œillets, déposaient officiellement une demande d'adhésion à l'Union européenne. Ils célèbrent aujourd'hui les 50 ans de cette révolution. D'abord coup d'état militaire, puis rapidement mouvement populaire contre le régime de Salazar. Le 25 avril 1974, le pays mettait fin pacifiquement à des décennies de dictature et ouvrait la voie à l'indépendance de ses colonies. Encore aujourd'hui, qui n'a pas la chair de poule en entendant les notes de la chanson de Zeca Fonse au coup d'envoi de cette révolution, faite par les capitaines de l'armée. Julie Pietri a rencontré l'un d'entre eux aujourd'hui à la retraite à Porto.
Castro Carneiro avait 28 ans à l'époque. Et aujourd'hui, 50 ans après donc, il conserve toujours des œillets dans son bureau.
Ce jour-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que je peux vous montrer.
Il exhume des vieilles photos, rappelle le contexte, les guerres coloniales au Mozambique, en Angola, où la colère des capitaines portugais mal payés, usés par les combats, grandissait. C'est là-bas, loin de Porto, qu'il participe à ses premières réunions.
Je pensais que tout allait fonctionner. On avait l'habitude. J'ai planifié des centaines d'opérations en Angola. Moi, ma mission, c'était de capturer le chef d'état-major de la région. On devait s'assurer que les militaires de Porto ne marcheraient pas sur Lisbonne. C'est ce qu'on a fait et ça a été bien fait.
Le 24, il sillonne le nord du pays pour distribuer lui-même les plans aux militaires. Et vers minuit, une chanson très attendue passe à la radio. C'est le signal, la révolution commence. Ce jour-là, sentiment de joie, de liberté forcément, mais il encaisse aussi la colère de son père, catholique fervent, et admirateur de Salazar. Aujourd'hui, l'ex-capitaine observe avec inquiétude la progression de l'extrême droite au Portugal.
En Espagne, le Premier ministre socialiste a pris hier soir tout le monde par surprise. Pedro Sanchez dit réfléchir à une éventuelle démission à la suite de l'ouverture d'une enquête pour corruption contre sa femme. Il y voit une campagne de déstabilisation.
Il est 7h10. La crainte de la sécheresse fait son retour en Corse.
Grave déficit de pluie sur le Cap Corse au nord de Bastia, si bien que les pouvoirs publics ont décidé de mettre en service dès cette semaine une usine de dessalement des eaux de la Méditerranée pour faire des réserves d'eau potable. Démarrer l'usine dès le mois d'avril, c'est du jamais vu sur l'île, reportage William Delesseux.
Un réseau de tuyaux noirs parcourt la digue jusqu'à ses containers bleus sur le port de Machinaggio. Il renferme des appareils de dessalement par osmose inverse. Karim Kenzi, fondateur de l'entreprise Nomado.
En 2022, quand on les a installés, l'idée c'était qu'ils soient sur place pendant 3 mois par an, 3-4 mois, qu'ils soient démobilisés et remobilisés à chaque fois qu'on en a besoin. La commune a décidé de les maintenir en bord de mer, de manière à pouvoir les démarrer assez rapidement.
Coût total 1 300 000 euros à la sortie de l'eau salée rejetée dans le port et de l'eau potable pour remplir le réservoir en amont de Rogliano et Tomino. Ce réservoir à moitié vide. Il n'y avait plus le choix, insiste le maire de Tomino, François Orlandi.
Ça a été la seule réponse possible pour produire de l'eau et alimenter la population lorsque les sources sont toutes au tari et que les forages sont maintenant au niveau le plus bas que l'on n'a jamais constaté. Et les nappes phréatiques, donc les eaux souterraines, qui par définition étaient abondantes, en tout cas existantes, aujourd'hui ne permettent plus une exploitation normale.
Avec pour preuve la rivière qui délimite sa commune. On n'en devine aujourd'hui que les contours, l'embouchure sur la plage de Galais a même disparu. Machinaggio, William Delesseux, France Inter.
À Kourou, la nouvelle Ariane 6 mise debout hier. Étape importante et inédite car jusqu'à présent, on assemblait Ariane 5 à la verticale, ce qui coûtait beaucoup plus cher. L'ambition, c'est donc de faire baisser les coûts tout en conservant la fiabilité de la fusée européenne. Mais d'ici au lancement de cette nouvelle fusée, il y a encore beaucoup à faire, Sophie Bécherel.
La voilà debout, du moins le corps central, c'est-à-dire les deux étages de la fusée. Aujourd'hui et demain seront ajoutés les deux propulseurs à poudre latéraux, puis plus tard, la coiffe sous laquelle 15 petits satellites prendront place. Entre-temps, branchement des circuits électriques, des fluides, des tests, encore des tests. Ça dure depuis 2 ans, mais c'est un choix délibéré, insiste Franck Tuiban, responsable des programmes civils chez Ariane Group. L'Europe cherche à minimiser les risques quand Elon Musk casse et capitalise sur ses erreurs.
L'Europe a une stratégie d'ordre géopolitique. Nous ne sommes pas uniquement dans une logique économique. Et donc, effectivement, l'Europe cherche le plus possible à faire bon du premier coup, à prendre toutes les précautions nécessaires pour que, au moment de lancer, tout se passe bien.
Du côté des équipes, on est serein, même si selon les statistiques, il y a un risque sur deux que la première mission échoue. Frédéric Fachin, l'un des responsables des opérations du vol inaugural.
Ce qu'on a pu voir finalement de ces 1,5 d'essais combinés, avec les essais de tir à feu qu'on a réalisés l'année dernière, on a un niveau de confiance qui est très très élevé. Après, c'est un nouveau lanceur. Donc forcément, on reste prudent.
En attendant la date historique du premier tir, le carnet de commandes d'Ariane 6 est plein. Satellites scientifiques, de météo, de télécommunications et même la constellation de Jeff Bezos. Cette année, il n'y aura que 2 tirs, mais d'ici 2 ans, 9 par an.
Sophie Bécherel à Kourou pour France Inter. Lancement prévu entre le 15 juin et le 31 juillet. Puis le PSG doit encore attendre avant d'être sacré malgré sa large victoire 4-1 contre Lorient hier, car Monaco s'est aussi imposé contre Lille. Le PSG pourrait être champion dès samedi contre Le Havre.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, c'est le Zoom. Aujourd'hui, dans le sud de l'Italie, où la terre tremble depuis des mois.
France Inter, 17h, Marie Misset et Marine Baousson.
Aujourd'hui, on reçoit un auteur de nombreux best-sellers qui vient d'écrire toute une œuvre sur son doudou.
C'est l'auteur jeunesse Monsieur Tan, le créateur de Mortel Adèle.
Jusqu'ici, tout va bien. L'émission qui chahute les idées, tous les jours à 17h sur Inter.
Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élu voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il est 7h14.
France Inter. Nicolas Demorand.
Le 7-10.
En plus d'être gratuite, ce qui n'est pas rien, la plateforme Arte.tv ne ressemble à aucune autre. Elle a une touche, une patte, un éclectisme qui offre la garantie d'y trouver quelque chose que vous ne cherchiez pas. Exemple en 80 secondes ce matin, avec l'excellent documentaire en deux volets que Michael Prasant consacre aux mafieux japonais, les Yakuza. Ceux qui sont interrogés parlent pour l'essentiel à visage découvert. Et ça, c'est déjà sidérant. Ils ne cachent rien de leurs activités passées ou présentes. Trafic en tout genre, drogue, prostitution, racket, protection entre guillemets des commerçants. Les hommes de main admettent calmement avoir beaucoup tué pendant les grandes guerres qui opposèrent les différents clans de Yakuza. Le documentaire décrit les règles de ce milieu, les rites de passage, l'imbrication des Yakuza avec la société japonaise, avec le monde politique, celui des affaires, du BTP, du sport, du divertissement. Mais la tonalité générale est celle d'un clair-obscur, voire d'un crépuscule. Depuis une quinzaine d'années, le Japon a mis en place un tel arsenal de lois contre les Yakuza qu'ils se sont retrouvés privés d'oxygène et transformés en parias, débordés aujourd'hui par des voyous d'un nouveau genre, violents, dépourvus de tout code d'honneur. Si vous les avez, prenez deux heures pour regarder ce documentaire saisissant de Michael Prasant sur la complainte d'une mafia née au 8e siècle et qui se demande si elle ne va pas disparaître au 21e. À voir donc sur la merveilleuse plateforme Arte.tv. Et voici le zoom. Sur une terre qui tremble. Zoom ce matin sur les champs phlégréens au sud de l'Italie. C'est une vaste zone volcanique où habitent 500 000 personnes et qui inclut une partie de Naples. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Italie. Bruno, la terre se fait à nouveau très menaçante depuis septembre dernier et des séismes à plus de 4 degrés de magnitude. Vous êtes allé à Pozzuoli, ville de 80 000 habitants, au cœur de cette zone.
Giovanna se remet de ses émotions au soleil sur le vieux port de Pozzuoli. La veille, magnitude 3,2 à l'heure du réveil.
Hier, ça a été terrible. Il y a eu un rugissement très fort. La maison très sautait. On habite au 4e étage. On a eu très peur.
Giovanna habite près d'une des zones les plus actives. Elle a pris l'habitude des montées de stress.
Avant une secousse, il y a une odeur de soufre puissante. Hier, l'odeur était très forte et elle l'est restée toute la journée.
Dans le vieux port, avant, l'eau arrivait jusqu'aux murailles de la citadelle qui le borde. Désormais, il est quasiment à sec car la terre se soulève. Un seul pêcheur en activité reste ici.
Je m'appelle Mario.
Pour rejoindre Mario, il faut se frayer un chemin entre les pierres humides. Il était en mer la veille quand la terre a tremblé.
Hier matin, oui, je l'ai senti. Comme quand les pêcheurs travaillaient à l'explosif.
Pozzuoli a toujours vécu avec cette menace. Dans les années 80, Mario, comme la moitié des habitants de la ville, a dû déménager. Une partie de la cité devenait trop dangereuse. Il se souvient de ses logements provisoires dans lesquels il a passé un bout d'enfance.
Il faisait chaud là-dedans et ça puait. C'était les tentes militaires vertes d'autrefois. Les personnes étaient amassées. Si je devais revivre ça, ce serait dramatique.
C'est dans le nouveau quartier, sur les hauteurs, que le maire Luigi Manzoni a réuni une pléiade de secouristes pour examiner le plan en cas de séisme majeur. On parle rupture de communication, évacuation des écoles. On en est au stade jaune. À l'orange, on évacue.
On est très loin de l'alerte orange. Mais les lieux d'évacuation sont prêts, du côté de Caserte, à proximité. Et on sait quels hôpitaux peuvent accueillir les patients. Ça, c'est pour le risque bradisismique. En cas d'alerte volcanique, la zone d'évacuation serait en Lombardie.
À l'autre bout du pays, donc.
Car en fait, les habitants de Pozzuoli vivent, Bruno, avec deux menaces, séisme et pré-éruption volcanique.
Leur ville est dans un vaste cratère formé il y a des milliers d'années. Sous leurs pieds, il y a 70 bouches éruptives. C'est cela, les champs phlégréens. Cette activité volcanique provoque des mouvements de roches. La terre s'abaisse ou se soulève. C'est le bradyséisme. Tout est suivi à l'observatoire du Vésuve à Naples. Le Vésuve donc, mais aussi les champs phlégréens, qui avaient fait sonner l'alarme la veille. Le directeur Mauro Di Vito est devant un écran plein de cercles.
Là, vous voyez ceux du dernier séisme, celui d'hier, 11 secousses. Depuis qu'a commencé la dernière crise, en 2006, le sol s'est soulevé de 121 cm. On suit ce phénomène de très près parce qu'il nous donne des indications sur l'évolution du magma qui, des profondeurs, pourrait remonter à la surface.
Hypothèse très lointaine à ce jour. Mais à Naples aussi, on se prépare au Big One. Ce jour-là, une centaine de volontaires de la sécurité civile participent à une formation. Maria vient de Pozzuoli pour suivre la leçon.
Il ne faut pas garder l'idée que nous sommes fatalistes à attendre qu'il se passe quelque chose, non. Il faut être informé, actif et conscient. Tu ne peux pas déraciner un peuple entier et lui dire « Basta, tu habites dans un volcan, tu dois partir ». Ce n'est pas possible.
Face à Pozzuoli, dans la baie, une ville antique a été engloutie par les eaux au fil de l'histoire tumultueuse des champs phlégréens. La beauté a cédé face au danger.
Bruno Duvic, merci pour ce zoom. À retrouver sur franceinter.fr.
Le 7-10 sur France Inter.
Il est 7h21 en toute subjectivité ce matin avec la directrice déléguée de la rédaction de l'Express, Anne Rosenchère. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Ce matin, Anne, vous marchez éhontément sur les plates-bandes d'Aline Afanoukoé.
Je confesse.
Et vous allez voir Aline, et vous nous parlez d'un groupe de musique qui fait un tabac en France.
Oui, ils ont rempli le Zénith d'Auvergne le 27 janvier dernier, celui de Toulouse le 23 mars, celui de Pau deux jours après. Ils feront Dijon bientôt, ou encore le Zénith de Paris le 12 octobre, et j'en passe. Qui ?
Oui,
qui ont ? Les Goldmen, un groupe formé par six copains du nord de la France, dont le chanteur Alain Stévez, ancien ouvrier du bâtiment, joue depuis 13 ans la ressemblance avec Jean-Jacques. Impressionnant sosie vocale du chanteur. Alain s'est aussi bricolé la silhouette JJG, époque années 80, jean, chemise blanche, cravate fine et carré effilé sur la nuque. Lui et cinq autres amis se sont lancés en 2010, d'abord dans de petites salles, puis de succès en surprise. Ils ont rempli ces deux dernières années les plus grands zéniths de France. Il y a quelque chose de jubilatoire et d'émouvant dans la success story de ces ch'tis partis de rien qui craquent en coulisses quand ils font l'Olympia en juin 2023. Pour ceux que ça intéresse, je conseille le documentaire que leur a consacré TMC en début d'année et qui donne comme un coup de sonde dans une France qu'on représente assez peu et souvent mal. Mais le succès de ce groupe dit autre chose encore. Il est un énième témoignage de l'incroyable rémanence Jean-Jacques Goldman dans la société française.
C'est-à-dire ?
Eh bien, c'est quand même dingue, cette popularité qui persiste et signe pour un chanteur qui, lui, ne signe plus rien et s'est volontairement retiré de la lumière. Élu personnalité préférée des Français chaque année depuis 11 ans, sauf en 2016, la passion française pour Goldman est un cas à part. Avec Jérôme Fourquet, nous avions fait pour l'Express il y a 3 ans un sondage sur ce qui nous rassemble encore. On avait testé des monuments, des plats, des émissions et des chanteurs. Donc, Goldman ressortait comme une espèce d'ovni, plus fédérateur encore que la blanquette de veau ou le château de Versailles. Moi, je suis comme énormément de Français, je l'aime. J'ai grandi avec sa musique en bande originale de mon enfance, puis de mon adolescence, et il me suffit d'entendre 3 notes de La vie par procuration pour me sentir chez moi. Goldman a connu son apogée à une époque où la culture populaire nous façonnait un univers mental en commun avant que nos goûts ne s'archipélisent et se fracturent selon notre sociologie. Il y avait bien sûr d'autres chanteurs très populaires en même temps, mais sa cote fédératrice a particulièrement persisté. Peut-être est-ce dû à la nature même de ce qu'il chantait. Sous les sarcasmes des plus branchés, Jean-Jacques Goldman chantait les dames seules qui attirent les moineaux, il chantait les profs, les cordonniers, les méritants habitants des HLM, les rêveurs de mieux et d'Amérique. Goldman est un vestige de la France d'avant la fracturation. C'est pourquoi nous y tenons tant, comme à un regret ou à un fantôme.
Merci Anne Rosenchère et à jeudi prochain pour encore un matin.
Encore un matin.
7h24.
Le 7-10 sur France Inter.
Au bout du téléphone, il y a votre voix et il y a les mots que je ne dirai pas. Tous ces mots qui font peur quand ils ne font pas rire, qui sont dans trop de films, de chansons et de livres.
Bonjour Aline Afanoukoé.
Bonjour Nicolas, hola à tous.
Message personnel, la célèbre chanson de la grande Françoise Hardy a inspiré un spectacle créé lors de l'Hyper Weekend Festival en janvier dernier. Cette œuvre collective est aussi à découvrir au Printemps de Bourges demain soir et dans Musique Aline évidemment ce matin.
Je ne sais pas d'où vient le mensonge.
Kerenan tenait absolument à réinterpréter cette pépite. La question, 24 ans après l'avoir déjà chantée en présence de son auteur, Françoise Hardy, dans le cadre d'une soirée à la SACEM, mais cette fois-ci sans un tsunami de tremblements. Le résultat est classieux avec PR2B à la clarinette. Toutes deux membres du supergroupe Éphémère, dirigé par le musicien et producteur Sage, qui s'est lancé dans un formidable travail d'adaptation du répertoire de Françoise Hardy, dévoilé donc fin janvier à la Maison de la Radio et de la Musique et sur France Inter.
Le premier chagrin du jour, c'est la porte qui se ferme, la voiture qui s'en va, le silence qui s'installe.
Mais bien vite tu reviens.
C'est une nuit autour de la famille recomposée avec Thomas Dutronc en duo avec sa sœur imaginaire que l'on compare à sa mère, l'illustre Françoise Hardy. J'ai nommé Clara Luciani.
Ouais. Et cette création, Aline, évolue sans cesse et elle intègre de nouvelles voix.
Oui Nicolas, et c'est inédit, sur la scène du Palais d'Oron à Bourges demain, Clara Isé, Alex Montembeau, November Ultra, Séverin, Alex Capranos du groupe Franz Ferdinand rejoindront Clara Luciani, Zao de Sagazan, PR2B, Voyou. Françoise Hardy, vous savez, avait passé un petit coup de fil à Sage et à Didier Varro, créateur de l'Hyper Weekend Festival, alors qu'ils avaient terminé la liste des chansons. Elle leur a subtilement glissé 50 titres d'elle qu'on ne reprend pas assez à son goût. Et la liste a été modifiée avec des si.
Et si vous m'aviez moins impressionné, si nous avions osé mettre nos rêves en pratique, si nous avions osé
avec des si, le discours amoureux repris par la chanteuse Pyjama. Pour cette création, Sage souhaitait raviver toutes les époques artistiques de Françoise Hardy. Voici une nouvelle version d'une chanson écrite et composée pour elle par la grande Sophie sur son dernier album Personne d'autre en 2018.
Aucun sable ni la dune n'arrête le sablier.
Le large reprise par Théodora et Albin de la Simone qui prendront aussi le large avec Sage, direction Bourges demain pour retrouver toute la troupe sur scène.
Rendez-vous en direct du Printemps de Bourges demain de 20h à 23h donc sur Inter avec Message personnel présenté par Marion Guilbeault et Laurent Goumard et puis les concerts de Clara Isé et Edith Depréto. Merci Aline. La météo est à suivre. Marie-Pierre Planchon est là, il est 7h28.
France Inter, c'est aussi sur les réseaux sociaux.
Sur Instagram, retrouvez le meilleur des émissions, nos reels et nos stories.
Facebook, X, Snap, Insta, Twitch, TikTok, abonnez-vous. La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Et encore des pluies, Marie-Pierre.
Oui, Nicolas, on est toujours cerné par les dépressions. Ce n'est pas fini, on va même avoir un épisode méditerranéen ce week-end. Mais en revanche, on aura moins froid. Alors aujourd'hui, on a une dépression qui rentre par le nord-est, une par le sud-ouest, avec des pluies qui remontent ce matin de l'Aquitaine jusqu'à la région toulousaine, au massif central, où il va neiger à 1000 mètres, et en journée jusqu'au sud de la région centre. La zone pluvieuse finira par concerner aussi tout le centre-val de Loire, de l'Occitanie, en s'étirant jusqu'à la vallée du Rhône et la Bourgogne dans l'après-midi, donnant de la neige sur les Pyrénées à 1500 mètres. Et puis dans le même temps, donc on a des averses qui arrosent dès ce matin les côtes de la Manche aux frontières du nord-est, devenant neigeuses sur les Vosges à 600 mètres. Et puis dans l'après-midi, ces averses vont se généraliser de la Bretagne, Hauts-de-France, au Grand Est, ailleurs, sur l'île de France, la Franche-Comté, les Alpes et le pourtour méditerranéen. Les nuages vont alterner avec de belles éclaircies qui seront encore plus belles sur les Alpes, avec quelques ondées quand même sur les Alpes du Sud et la Corse.
Et les températures restent quand même fraîches.
Oui, même si les gelées sont moins nombreuses, Nicolas, c'est quand même descendu à moins 1 vers Dijon ou Reims, 0 vers Chartres. Et Caen, il fait 1 petit degré au Puy-Loup, 2 à Rennes, 5 à Paris, 10 à Toulon. Et cet après-midi, on sera encore 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison, malgré une petite hausse, 10 à Aurillac. Vous aurez 12 à Strasbourg, 14 à Paris, 16 à Nice et 17 à Bastia.
Merci Marie-Pierre et merci à vous de nous rejoindre sur Inter. 7h30. Et le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les dons résistent à l'inflation, c'est la bonne nouvelle du jour. Les Français sont toujours aussi nombreux à donner aux associations, malgré la baisse du pouvoir d'achat. Vous allez découvrir dans ce journal comment cet argent est utilisé concrètement. 2 millions de bouteilles de Perrier à la poubelle. L'un des captages dans le Gard est contaminé. Nouveau revers pour le groupe Nestlé et ses eaux minérales. Le détail à suivre. Dans ce journal aussi, un rappeur iranien condamné à mort pour son opposition au régime. Les CRS qui menacent de perturber les JO si les primes ne tombent pas. Et puis lui n'était pas encore né que Rafael Nadal avait déjà remporté 3 Roland-Garros. Un Américain de 16 ans affronte aujourd'hui la star espagnole du tennis.
Et au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui l'ancien eurodéputé José Bové et l'acteur Bully Lanners pour le film Une affaire de principe en salle le 1er mai.
France Inter.
La déclaration de revenus, c'est en ce moment, Alexis. Et c'est l'occasion aussi de faire le bilan de ces dons aux associations.
Oui, pour bénéficier d'une défiscalisation partielle. Alors, on aurait pu penser qu'avec l'inflation, les donateurs seraient moins nombreux. Eh bien, pas du tout. En 2023, les Français ont été au rendez-vous. Sarah Mansoura, selon le baromètre que publie ce matin la Fondation des apprentis d'Auteuil, 51% des personnes interrogées ont donné au moins une fois dans l'année.
C'est une hausse de 1 point par rapport à l'année précédente. Et c'est encore plus vrai pour les moins de 35 ans qui ont été 56% à donner. Le record se situe chez les très hauts revenus, plus de 120 000 euros annuels. Eux déclarent à 81% avoir fait au moins un don. Quant au moyen montant des dons, tous revenus confondus, il est aussi en hausse pour atteindre 371 euros par donateur. Mais la grande nouveauté, c'est la hiérarchie des causes soutenues. La santé et la recherche médicale chutent de la tête du classement pour laisser place à l'aide aux plus démunis. 87% des interrogés se disent inquiets sur l'avenir des plus précaires. Enfin, l'envie de s'engager s'annonce un peu plus forte en 2024. La proportion de Français considérant qu'ils vont donner plus augmente de 6 points pour atteindre 28% des donateurs.
Donc de nouvelles priorités pour ces donateurs, vous le disiez Sarah, les plus démunis, mais aussi d'autres causes comme la jeunesse et l'éducation. Alors à quoi servent concrètement les dons dans ce domaine? Pour le savoir, Sarah, vous vous êtes rendue dans un lycée professionnel de Sannois, c'est dans le Val d'Oise.
À 18 ans, Ilan s'apprête à passer son bac pro marchandisage visuel. Un long chemin parcouru pour ce jeune arrivé en classe de 5e avec des difficultés scolaires et de comportement.
J'étais un peu dissipé.
Aîné d'une fratrie de 6, élevé par une mère seule avec peu de ressources, sa place en internat a été largement financée par des dons.
Une fois en fait que je suis arrivé ici, tout ça est parti parce qu'en plus avec l'aide des éducateurs dans les internats et même les profs qui nous suivent, donc ça m'a beaucoup aidé. Si on veut leur parler, ils sont toujours disponibles. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce changement aussi et que j'ai pu réfléchir aussi sur moi-même.
Une partie des 150 internes ici arrivent en situation de décrochage scolaire ou avec un fort besoin de s'éloigner du cadre familial. Ils trouvent dans cet établissement un accompagnement personnalisé, une aide pour trouver des stages et des activités culturelles et sportives. Un encadrement impossible sans les dons récoltés par la Fondation des apprentis d'Auteuil, rappelle la directrice Dominique Lelon-André.
Sans les dons et legs, nous ne pourrions pas avoir des internats où les élèves puissent
d'avoir cette, la qualité d'encadrement qu'on leur offre. Les familles ne peuvent pas payer, ce serait beaucoup trop cher. Donc on va rechercher des fonds, dons, legs, et ils représentent à peu près 70%.
Les parents les plus modestes participent à hauteur de 10% du coût de la scolarité en internat.
Sarah Mansoura.
Il est 7h34 et on en vient à ce nouveau coup dur pour Nestlé.
Et sa branche eau minérale déjà dans la tourmente. La marque Perrier a dû cesser l'exploitation de l'un de ses captages dans le Gard à la demande de la préfecture. Après la découverte de bactéries, on vous en parlait dès hier sur Inter. Et ce matin, Marie Dupin, on apprend qu'au moins 2 millions de bouteilles sont concernées.
Oui, 2 millions de bouteilles détruites et un puits désormais fermé dans l'usine Perrier du Gard. Cette annonce d'une contamination par des bactéries d'origine fécale intervient 3 semaines seulement après nos révélations. Sur une note adressée au gouvernement évoquant un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des eaux minérales Nestlé, en cause une contamination des ressources qui avait conduit l'entreprise à mettre en place des traitements interdits. La multinationale affirmait avoir retiré ces traitements, mais pouvoir malgré tout garantir la qualité de ces eaux, les puits contaminés ayant été fermés ou détournés pour fabriquer des boissons gazeuses. Or, l'annonce de la destruction de 2 millions de bouteilles Perrier semble confirmer au contraire que des sources contaminées continuent d'être exploitées par Nestlé pour produire de l'eau minérale naturelle, censée pourtant être protégée de toute forme de pollution. Le ministère de la Santé n'a pas encore répondu à nos questions.
Et le groupe assure que les autres bouteilles sur le marché peuvent être consommées sans risque. L'Élysée s'en défend, mais pour les adversaires du président, il s'agit bien là d'une entrée en campagne à 6 semaines des élections européennes. Emmanuel Macron prononce ce matin un nouveau discours sur l'Europe à la Sorbonne, comme en 2017. Le chef de l'État devrait dérouler une série de mesures nécessaires, selon lui, pour passer à l'Europe puissance. Et cela au moment où son camp est à la peine dans les sondages, analyse dans le journal de 8h. Et ses opposants comptent bien réagir. Jordan Bardella du RN organise d'ailleurs une conférence de presse dans la foulée du discours présidentiel. À gauche, Raphaël Glucksmann lui a anticipé dès hier soir, comme pour lui couper l'herbe sous le pied. Le candidat socialiste était à Strasbourg, Laurence Perron.
Plus de bruit encore !
Nombre d'entre eux n'ont pas leur carte PS. Pour beaucoup, des étudiants venus écouter l'homme, c'est son slogan, qui veut réveiller l'Europe.
Quel accueil !
L'eurodéputé attaque.
Aujourd'hui, nous avons voté la directive sur les travailleurs des plateformes. Et je dois dire que ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron.
C'est l'intellectuel qui déroule ensuite.
Wo aber Gefahr ist, wächst das rettende auch. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent.
Il défend après la démocratie européenne menacée une révolution écologique qui ne pèserait pas sur les pauvres.
Que les multimillionnaires contribuent à une transition écologique qui soit socialement juste.
L'écoute est polie, mais à l'issue de 2 heures de meeting, la salle fatigue.
J'avais écrit à peu près une 50aine de pages parce que j'avais décidé que c'était mon grand discours fleuve. Je vais vous épargner.
Toutefois, le feu de clôture sur le président de la République qui aurait renié ses valeurs ranime les ardeurs militantes.
La différence essentielle entre lui et nous. Quand nous rencontrons une situation de déficit, ce n'est pas d'aller taper sur les droits des chômeurs. Ça change tout.
Au final, plus qu'un contre-discours de la Sorbonne, une profession de foi européenne et social-démocrate très documentée.
Ramenez-les à la maison. Nouvelle manifestation spontanée hier soir en Israël, devant le domicile du Premier ministre Netanyahou, après la diffusion d'une nouvelle vidéo d'otage par le Hamas. Il s'agit d'un homme de 23 ans, enlevé lors du festival de musique Nova le 7 octobre dernier. À Gaza, pendant ce temps, toujours beaucoup de questions autour de ces fosses communes découvertes dans 2 hôpitaux de l'enclave. La Maison-Blanche demande ce matin à Israël une enquête fouillée et transparente. En Iran, il est l'une des grandes voix de la révolte contre les mollahs. Le célèbre rappeur Toumadj Salehi vient d'être condamné à mort par un tribunal d'Ispahan. Étienne Monin, le régime veut faire disparaître avec lui un symbole très visible de la résistance.
Malgré les risques encourus, dans ce titre qui date d'avant la révolution de 2022, Toumadj Salehi critique ouvertement le régime et l'absence de justice. À 33 ans, cette star du rap en Iran est incarcérée 3 fois, arrêtée en décembre dernier pour avoir dénoncé l'usage de la torture en détention dans une vidéo.
J'ai été torturé. Après cette arrestation, ils m'ont cassé la main et frappé le visage.
J'ai essayé de me protéger avec les mains, ils m'ont brisé les doigts.
Issu d'une famille de résistants, le rappeur aux 2 millions de followers sur Instagram est un combattant. Il défend les valeurs de liberté et refuse de se taire, explique Lila Pagzar, activiste de la diaspora en France.
C'est vraiment le symbole de la résistance. Il va donner aux Iraniens de l'intérieur la possibilité de croire qu'ils peuvent résister, que la liberté peut arriver.
Toumadj Salehi a soutenu la révolution de 2022. Ça n'est pas le premier artiste condamné à mort. Les militants pensent qu'avec lui, c'est l'espoir que le régime veut faire disparaître.
C'est une situation un peu paradoxale que connaissent aujourd'hui les aéroports français. Le principal syndicat de contrôleurs aériens a bien levé son préavis de grève hier, mais trop tardivement pour pouvoir reprogrammer les vols déjà annulés. Le trafic reste donc très perturbé toute la journée. Orly, le plus touché, avec trois quarts de suppression, 65% à Marseille, la moitié à Roissy. Les conflits sociaux surveillés comme le lait sur le feu à l'approche des JO. Les policiers vont-ils entrer dans la danse? Le ministre de l'Intérieur leur a pourtant promis des centaines de millions d'euros de primes pour ces jeux. Mais l'argent n'est pour l'instant pas débloqué par Bercy. Le syndicat Alliance Voie Rouge émène aujourd'hui une première action symbolique en appelant ses troupes à bloquer le passage de la flamme CRS. C'est un défi sportif interne. Premier avertissement donc, avant de frapper peut-être plus fort. Fabien Van Emmelrich, secrétaire général.
Il y a l'arrivée de la flamme des CRS. On va montrer à notre administration qui sera présente, de la plus petite à la plus haute autorité, mais aussi à l'ensemble du gouvernement qu'on est capable de bloquer une arrivée de flamme. On va leur dire que le 8 mai, on est capable de faire la même chose avec la vraie flamme. Donc malheureusement, encore une fois, et ça devient usant même, on est obligé de menacer, on est obligé de se mobiliser, on est obligé de faire en sorte d'obtenir ce qu'on nous a promis. Aujourd'hui, vous avez Bercy qui se permet de bloquer la situation financière et vous avez un Premier ministre qui ne fait pas l'arbitrage escompté et on attend toujours. On ne va pas aller envoyer les collègues travailler 6 jours sur 7 à 70 heures par semaine avec des petites primes Jeux Olympiques, des heures supplémentaires qui sont normalement payés et au final pas débloquer l'argent nécessaire.
Le secrétaire général d'Alliance Police avec Emmanuel Leclerc. Le sport sur le terrain et cette surprise ce matin. Xavi, l'entraîneur du Barça, restera finalement à son poste jusqu'en 2025 au moins. Il a subitement changé d'avis, lui qui disait jusque-là vouloir quitter le FC Barcelone après une série de mauvais résultats. Au rayon sportifs espagnols, je demande aussi Rafael Nadal, dont on ne sait toujours pas s'il participera à Roland-Garros fin mai. Le tennisman n'a pas retrouvé toute sa force. Il hésite encore. En attendant, il joue aujourd'hui le premier tour du tournoi de Madrid face à un jeune, très jeune adversaire, Darwin Blanche, 16 ans seulement, grand espoir du tennis américain. Fabrice Abgral, on ne voit pas souvent de telles confrontations.
21 ans de différence. Jamais dans l'histoire du tennis, il y a eu autant d'écart d'âge entre deux adversaires. Darwin Blanche est né en Floride le 28 septembre 2007. À cette date, Rafael Nadal était déjà numéro 2 mondial et avait remporté 23 tournois, dont 3 Roland-Garros. Darwin Blanche est plutôt précoce. Ce gaucher américain devient en effet champion des États-Unis des moins de 16 ans, alors qu'il n'en a que 14. Il quitte la Floride pour Alicante, en Espagne, où il intègre l'académie créée par Juan Carlos Ferrero, le coach de Carlos Alcaraz, avec lequel il s'entraîne régulièrement.
Tous les entraînements avec Carlos m'aident vraiment, il me donne des conseils. Chaque fois que je m'entraîne avec lui, c'est un grand plaisir et j'en tire le meilleur.
Carlos Alcaraz est donc son partenaire d'entraînement, mais Darwin Blanche a une idole, c'est Novak Djokovic. En revanche, son modèle, c'est Rafael Nadal.
Quand j'étais plus jeune, j'imitais son coup droit à l'assaut, je le copiais vraiment, mais aussi son esprit guerrier. Tout le monde disait, c'est Nadal, c'est Nadal.
Alors forcément, affronter Rafael Nadal, c'est pour lui.
C'est un grand rêve, surtout par rapport à tout ce qu'il a fait pour ce sport. C'est génial.
Le tennis n'est pas le seul domaine dans lequel il est doué. Darwin Blanche parle quatre langues, l'anglais, l'espagnol, le chinois et le thaï, et tout ça à 16 ans.
Et puis on vient de l'apprendre, Nicolas, à Paris, les ailes du Moulin Rouge dans le quartier de Pigalle se sont effondrées dans la nuit, heureusement sans faire de blessés. Un périmètre de sécurité est mis en place autour du mythique cabaret, amputé donc ce matin de ses ailes lumineuses.
Merci Alexis Morel. À suivre, Yaël Gauze, Dominique Seux, Sonia De Villers, mais pas Mathieu Noël, de nouveau à Faune, ce qui est compliqué tout de même pour faire de la radio.
La montée du niveau des mers s'accélère. L'érosion grignote nos côtes. Allons voir sur le terrain.
France Inter, 13h, Jérôme Cadet.
Ce jeudi, le 13-14 est dans le Var, le département de métropole le plus exposé à l'érosion. Nous verrons comment se préparent les communes, les plages privées qui ferment, les habitants qui doivent déménager, les dunes que l'on ne cesse de renforcer.
Le 13-14 de France Inter.
En direct du Lavandou dans le Var, c'est tout à l'heure.
Et si vous aviez l'occasion de rouler en première classe au prix de la seconde ? DS Automobile présente le surclassement en DS3 Crossback d'occasion. Car si ce n'est pas la destination qui compte, mais bien le voyage, pourquoi vous contenter de bien quand vous pourriez avoir mieux ? Jusqu'au 30 avril, vivez une expérience de conduite premium à bord d'un DS3 Crossback E-Tense 100% électrique d'occasion à partir de 199€ par mois. Surclassez-vous avec DS Certified. Voir conditions sur dscertified.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Il est 7h44.
Le 7-10 sur France Inter.
L'édito politique et Yael Gauz, c'est le printemps des européennes, mais c'est aussi le printemps des agences de notation.
Et oui, et l'un pourrait contrarier et refroidir l'autre, car ce jeudi, le président veut frapper un grand coup, on le sait, remobiliser les siens, réveiller ses électeurs de 2022 qui hibernent encore, et dont la moitié pourrait s'abstenir le 9 juin prochain. Et comment ? Eh bien, en faisant l'exact inverse de Jordan Bardella, européaniser la campagne quand le RN la transforme en référendum national anti-Macron. Sortir des frontières donc, élargir le spectre, parler d'Europe puissance, sauf que demain, Nicolas, c'est bien la France qui sera notée. Les agences Moody's et Fitch diront si l'exécutif gère bien ou moins bien les finances publiques. Or, on le sait, les mauvaises nouvelles s'accumulent depuis février. Plus de 3 000 milliards d'euros de dette, une croissance revue à la baisse, plan d'économie de 10 milliards d'euros, puis 20 l'an prochain.
Ces notes, Yael, pèsent-elles vraiment ?
Alors, elles pèsent politiquement, pas ou peu économiquement. Je m'explique, les marchés ne sont pas suspendus à ces oracles. Ils anticipent les marchés, ils intègrent au fil de l'eau les points faibles ou les points forts de notre économie. Et récemment, on a même vu des notes à la baisse n'avoir aucun effet sur les marchés. Il y a un an, Fitch nous faisait passer de AA à AA-, mais la France a emprunté à un taux légèrement plus favorable. Pourquoi ? Dominique Seux, vous le direz mieux que moi, l'euro et la banque centrale nous protègent, et puis la France est réputée pour savoir lever et encaisser l'impôt s'il le faut.
Mais alors, pourquoi on en parle autant ?
Parce que ce thermomètre est devenu le hocher préféré des politiques. Rappelez-vous la campagne 2012. François Hollande tambourine sur ce triple A perdu. Ce n'est pas la France qui a été dégradée, insistait le candidat socialiste à l'époque, mais la politique de Nicolas Sarkozy. Sauf qu'un an plus tard, c'est au tour de son ministre de l'économie, Pierre Moscovici, de devoir s'expliquer lui aussi sur une nouvelle note dégradée. Le même Pierre Moscovici qui préside aujourd'hui la Cour des comptes et qui critique le manque de crédibilité du gouvernement Attal dans sa trajectoire budgétaire. Ping-pong infernale de l'arroseur et de l'arrosée.
Et ça va continuer ?
Oh que oui, parallèlement à la campagne, car le 31 mai, c'est Standard & Poor's qui sortira son bulletin de notes à 10 jours seulement de l'élection. Et plus près de nous, dès lundi à l'Assemblée, ce sont justement les prévisions budgétaires du gouvernement qui seront débattues par les députés. Ces notes, c'est une drogue, Nicolas. Très pratique, on l'a dit, quand vous êtes dans l'opposition. Si ça baisse, la droite, les Républicains pourront justifier une future motion de censure. Et le RN transforme les Mozart en tocard, je cite, de la finance. Mais paradoxalement, une note dégradée, ce ne serait pas forcément une si mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron parce qu'elle aiderait le gouvernement à justifier la poursuite de réformes pour moins de dépenses publiques. Le problème, c'est le calendrier. Comme me l'a dit un responsable de la campagne de Valérie Ayer, ça serait mieux si le gouvernement se taisait jusqu'au 9 juin, ne parler que d'Europe, éviter la foire à la saucisse et les réformes anxiogènes. La Sorbonne est une université. Discours ou pas, il y a toujours une note qui tombe en fin de cycle.
Yael Gauz.
L'édito éco avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Dominique, ceux des milliers de passagers aériens sont bloqués au sol ce jeudi, malgré un accord social in extremis.
Et même des dizaines de milliers, selon les aéroports, entre un vol sur deux et trois sur quatre restent supprimés. Vous savez, Nicolas, cette affaire, c'est vraiment une drôle d'affaire. Sur le fond, c'est sans doute un bon accord avec à la clé une bonne réforme qui a été conclue entre l'aviation civile et les syndicats après 15 mois de discussion. Mais Mais il y a eu une poussée de fièvre dans le dernier virage, il y a eu des préavis de grève, et ces préavis ont été levés trop tard pour que les avions puissent voler. C'est clairement un gâchis. Et le ministre des Transports, qui a salué un accord gagnant-gagnant, c'est, disons, maladroit quand des passagers sont en galère et que les compagnies aériennes perdent des dizaines de millions d'euros.
Alors dites-nous, Dominique, de quoi parle-t-on exactement ?
Alors bon, le système de contrôle aérien français a perdu en qualité, avec des matériels obsolètes, et en efficacité, et il exaspère les autres pays avec ses retards. Depuis janvier, il y a un premier changement. Les contrôleurs doivent déposer un préavis de grève 48 heures à l'avance. Quand on y pense une seconde, la situation antérieure paraît folle. Passons. Là, ce qui va bouger et simplifier le ciel, c'est qu'un quart des tours de contrôle vont être fermés, la moitié des centres d'approche aussi. Et surtout, le contrôle du travail de ceux qu'on appelait autrefois les aiguilleurs du ciel va être accru.
Et pour quelle raison ?
Écoutez ça. Aujourd'hui, une pratique leur permet de s'autoriser entre eux des absences non décomptées, non badgées, ni vues ni connues. Ce qui a réveillé tout le monde, c'est qu'on a risqué l'accident à Bordeaux il y a 2 ans. 2 avions vraiment failli entrer en collision alors qu'un contrôleur tenait 4 postes à lui tout seul. L'idée, c'est aussi d'optimiser les routes dans le ciel pour faire des économies de carburant. Donc c'est encore ce jeudi la loi de l'emmerdement maximum, mais une réforme utile devrait en sortir. En attendant, et ça commence à se susurrer, de voir ce qu'apportera l'intelligence artificielle.
Et politiquement, c'est plus compliqué.
Ben oui, parce qu'en quelques heures, le gouvernement a donné l'impression de céder sous la pression à l'approche des JO, de manquer d'autorité, à la SNCF d'abord, avec l'accord sur les retraites, ensuite avec les contrôleurs aériens. Dans le transport aérien, c'est plus complexe, on vient de le dire, c'est l'issue d'une longue négociation. Mais ce qui frappe, c'est que le gouvernement aurait découvert avant-hier seulement l'accord conclu à la SNCF, accord qui a déplu Emmanuel Macron, puisqu'il contourne sa réforme des retraites. Le moins qu'on puisse dire est que les informations circulent mal au sommet de l'État. On a juste envie de conseiller au gouvernement d'écouter France Inter s'il se trouve mal informé, parce qu'ici, on a déjà une petite idée du prochain nœud social à dénouer, les dockers.
Eh bien voilà, merci Dominique.
France Inter, le 7-10.
Il est 7h50, Sonia De Villers, vous recevez un ancien député européen et son double, l'acteur qui joue son rôle au cinéma.
Voilà, ce qui n'arrive pas à tant de députés européens que ça. Hein. Le film se déroule dans les coulisses du Parlement, justement, où l'industrie du tabac magouille au plus haut niveau, corrompt, falsifie pour empêcher les élus de légiférer. Retour sur un scandale politique qui a véritablement éclaté en 2013, grâce à l'entêtement d'un député écologiste seul contre tous. Rien ne le prédestinait à mener ce combat-là, si ce n'est une question de principe. Ça tombe bien, c'est le titre du film. Alors, par ordre d'apparition de moustache, José Bové, bonjour.
Bonjour.
Et Bully Lanners, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Bully Lanners, ça vous fait quoi d'interpréter un député européen qui ferraille contre les lobbies du tabac tout en tirant sur sa pipe à chaque plan du film ?
Ça me fait plaisir parce que j'aime beaucoup José Bové avant de le rencontrer. Et puis ça m'a permis de refumer la pipe, ce que je ne faisais
c'est
depuis
ça.
Des années.
José Bové, vous fumez toujours ?
Oui, mais je me soigne.
C'est ça. Donc plus sérieusement, un commissaire européen à la santé, il est maltais, il est de droite, c'est votre adversaire politique, il se fait virer pour accointance avec les lobbies du tabac. Vous, vous êtes de gauche, vous êtes occupé par la PAC, la politique agricole commune, et vous décidez de mener l'enquête. Donc c'est pas une question de poumon. Qu'est-ce qui vous a décidé ?
C'est mon adversaire principal. C'est lui qui s'occupe de la santé. Donc on a les additifs alimentaires, on a les OGM, on a les pesticides, et c'est lui qui a ça en charge. Donc je dirais presque au moins une fois par mois, on est dans son bureau ou au Parlement, et on ferraille. Et là, on est en séminaire du groupe des Verts à l'époque, et j'apprends par une dépêche qu'il est viré. Et il me dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que le commissaire à la santé, alors qu'il a sa directive tabac à laquelle il tient, c'est son bâton de maréchal, soit poussé à la porte.
Ouais.
Et on s'est dit, il y a un truc qui ne va pas. Et donc là, il est accusé d'avoir demandé 60 millions d'euros pour faire ça, pour retarder, pour faire rentrer un tabac à sucer, le snus, qui est fabriqué en Suède.
Un tabac
et qui est interdit dans toute l'Union Européenne, sauf la Suède.
Ouais.
Et donc voilà, ça démarre comme ça. Et évidemment, on se retrouve dans un imbroglio avec, effectivement, à la tête, le président de la Commission, Monsieur Barroso, et qui tire les ficelles. Et on en a la preuve aujourd'hui, puisque lundi, il y a eu un procès du directeur de l'époque de la lutte antifraude, qui a déjà été condamné à 1 an de prison avec sursis pour cette affaire. Et
Donc ça aura mis 10 ans.
Voilà, et en appel, lundi, il a été à nouveau, il est allé à la barre en disant « Je vous ai menti, j'étais convoqué par le président Barroso pour mener l'enquête de cette manière. » Et là, maintenant, t'as tout le parquet belge qui se dit « Waouh !»
Waouh ! Donc ça, c'était en 2013, il faut savoir que José Manuel Barroso...
Et là, maintenant, on est aussi en 2024 et on est là.
Il est parti en 2014, il est parti chez Goldman Sachs, devenu patron d'une grande banque d'affaires. Bully Lanners, vous êtes acteur, mais vous êtes aussi militant, anti-nucléaire, fervent écologiste, partisan de la décroissance. Un réalisateur, Antoine Rimbaud, vous propose de jouer pas un flic, pas un entraîneur de foot, pas un docteur, pas un prof, il vous propose de jouer José Bové. Cadeau ?
Cadeau, je dis oui tout de suite. Oui, je n'ai même pas lu le scénario. L'idée d'incarner José Bové, pour moi, c'était déjà oui.
Vous vous connaissiez ?
Non, pas du tout. Et du coup, ça m'a permis de le rencontrer.
Ouais, c'est ça. Alors, j'ai un petit scoop. Il paraît que vous êtes cousin ?
Ouais, éloigné. Mais pas tant que ça, en fait, non.
Mais non.
Cousin.
Cousin.
Ouais, ouais, oui.
Bon, on ne le savait pas.
On ne le savait pas, on l'a découvert en parlant, parce qu'il est venu sur le Larzac, il fallait qu'il s'imprègne.
C'est ça.
Donc c'est extraordinaire.
Il s'est imprégné sur le Larzac, mais il n'empêche que vous avez tourné véritablement au Parlement.
Européen, oui, à Bruxelles et à Strasbourg. Ils nous ont ouvert les portes.
Parce que ce qu'on oublie, c'est que le Parlement, il se vide une semaine sur deux.
Bah, la chance qu'Antoine avait pour le film, c'est qu'il y a toujours cette transhumance qui se fait tous les mois, où le Parlement européen va à Strasbourg et vice-versa. Donc, ce qui fait que les bâtiments sont vides pendant une semaine ou trois semaines d'un autre côté.
C'est
donc
ça.
On avait tout à disposition.
C'est ça. Alors, votre personnage, José Bové, dans le film, dit « Personne ne peut nous blairer ici, au Parlement ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bah, ça veut dire que... Moi, je suis député, mais je ne suis pas un député qui a été formaté pour être député.
Non.
Je suis d'abord syndicaliste, j'ai quand même d'abord été dans l'action. Quand il n'y a plus d'autres moyens, ben, on est dans l'action. Ben, on a fauché des OGM, il y a eu quelques aventures avec les fast-foods. Bon, bref, tout
vous
ça, tout le monde le sait.
McDo,
mais ouais. Quand je suis au Parlement, on fait une liste avec Dany Cohn-Bendit à l'époque, en 2009, et on dit, on a deux trucs, c'est l'Europe et l'écologie. Mais on ne va pas forcément le faire de la même manière que tout le monde. Donc, pour moi, c'est un engagement. On dit souvent, enfin, c'est ce que je dis, c'est que la démocratie est un sport de combat. Et ce qui est extraordinaire à l'Europe, c'est que vraiment, d'abord, c'est une élection à la proportionnelle, donc toutes les voix comptent, et donc on peut agir, on peut faire avancer, on peut faire bouger les lignes.
Parce que justement, c'est ce que je me disais, Bully Lanners, vous sortez de ce tournage et de cette aventure de cinéma en vous disant quoi ? L'Europe, c'est corrompu, c'est pourri, c'est le lieu de tous les lobbies, de tous les trafics d'influence, ou au contraire, c'est le lieu où des citoyens, d'un seul coup, se mettent à avoir un vrai pouvoir.
C'est les deux, c'est-à-dire qu'il y a, bah, il y a le Conseil et la Commission qui sont très opaques, le Parlement qui est très ouvert, et le Parlement est un outil démocratique qui fonctionne, puisque ça permet de contrôler aussi ce qui se passe à la Commission et au Conseil. Donc il y a les deux, il y a les lobbies, mais il y a les OGN aussi, les ONG qui travaillent contre les lobbies, qui font une forme de lobby pour la société civile, et le Parlement est l'outil démocratique avec les élus qui se battent pour pouvoir faire passer ou pas les règlements.
Et vous qui avez des convictions chevillées au corps, vous croyez plus en l'activisme, c'est-à-dire en l'engagement des citoyens, ou vous croyez encore à la politique, au vote ?
Je crois encore à la politique parce que l'outil fonctionne, donc on ne peut pas faire que l'un ou l'autre. Ouais. Moi, j'ai besoin d'être dans la rue pour certaines choses, mais on ne peut pas légiférer dans la rue. Donc il faut que ça passe par les parlements tant que cet outil-là existe. Donc il faut faire les deux. Et pour faire bouger les lignes dans le Parlement, parfois il faut aller dans la rue.
Mmh. Alors en 2013, José Bové, vous en avez tiré un film, hein, donc vous vous lancez dans un livre qui est devenu un film aujourd'hui. Vous vous lancez donc dans cette enquête avec votre petite équipe et les masques vont tomber les uns après les autres. Derrière ça, il y a une vaste histoire de corruption. Et le Qatargate, on est en 2022, c'était il y a 2 ans, énorme séisme en matière de trafic d'influence. Des règles ont été mises en place, certains les jugent pas tout à fait assez suffisantes. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'affaire de 2013 n'avait pas servi de leçon ?
Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, tout était focalisé, évidemment, sur l'Europe, parce que c'est là où il y a tous les pouvoirs. Mmh. Et effectivement, l'Europe gêne tout le monde. L'Europe gêne les empires. La Chine déteste l'Europe, la Russie déteste l'Europe, et les États-Unis auraient préféré que l'Europe ne se fasse pas. Donc on est là aujourd'hui en train de représenter quelque chose qui est difficile. Donc on a toutes les pressions, et les pays viennent sur ces pressions. Il y a le Qatar, il y a le Maroc, maintenant on a des soupçons sur la Russie, avec, mais il faut que l'enquête aboutisse, donc on verra si les députés RN ont effectivement été payés par les Russes, j'en sais rien encore. On a la Chine, la tête de liste de l'AFD, donc le parti d'extrême droite allemand, son assistant serait, entre guillemets, un agent de chinois. Là, on est en train de devenir fou. Mais justement, on en parle. Et c'est ça qui est important au Parlement européen, c'est qu'il y a la transparence. Et à chaque crise, on essaye d'avancer. Je rappellerai juste que moi, On a essayé de m'acheter le ministre de l'Agriculture du Maroc, et je l'ai dénoncé sur France Inter, je l'avais dénoncé ici, et il y a un an et demi, quand vous receviez le commissaire Breton, j'étais intervenu, il a porté plainte contre moi, pour diffamation. Mais ça fait plus d'un an et demi, j'attends toujours. Donc voilà, et ce qui est rigolo, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec ces nouveaux scandales. Donc il faut continuer à pousser, et c'est ça qui fait la force du Parlement.
Alors votre personnage, José Bové, raconte à sa stagiaire dans le film l'époque des fauchages volontaires, la justice qui s'acharne, la prison, plusieurs courtes peines à l'époque. Je cite votre personnage, « Au début tu crânes, puis tu te rends compte que ça te détruit, ils ont gagné, j'ai plus du tout envie d'y aller. Cette affaire montre que vous aviez encore du jus, mine de. Mais vous diriez, José Bové, que les activistes écologistes d'aujourd'hui sont plus réprimés que ce que vous avez connu, ou moins réprimés que ce que vous avez, vous, connu ?
Je dirais qu'en fonction des périodes, les formes, c'est en fonction du rapport de force. C'est clair que les pouvoirs politiques et les lobbies détestent les écologistes. C'est quand même des empêcheurs de tourner en rond. Donc, il y a effectivement un rapport de force. Moi, je suis très choqué quand on criminalise et qu'on traite des écologistes d'éco-terroristes. C'est un mépris total pour les victimes du terrorisme. Donc, je crois qu'il y a un moment, il va falloir qu'il y en ait qui se ressaisissent et qu'on puisse continuer, effectivement, à porter la parole de l'intérêt général.
Bully Lanners.
Bah, je confirme, en France, effectivement, la répression est beaucoup plus grande qu'en Belgique, par exemple. Si je peux comparer avec la Belgique. Oui, c'est incomparable. Incomparable. En Belgique, on arriverait genre, enfin, c'est incomparable. La stigmatisation, la criminalisation des militants écologistes, en France, elle est hallucinante.
Ouais. Bully Lanners, j'ai lu que vous vouliez vous retirer du cinéma. Est-ce que ça va être votre dernier film ?
Non, il y a encore, de toute façon, il y a encore Hippocrate qui va sortir bientôt la saison 3. Voilà. Mais je fais un pas de côté. Voilà, je vais faire un petit tour, quoi, et puis je reviens.
Vous voulez pas nous raconter ce que c'est le petit tour, parce que c'est tellement joli.
Bah, le petit tour, c'est le théâtre de marionnettes que j'ai ouvert avec mon épouse, qui est l'héritage d'un théâtre de marionnettes familial. Il y a ça, et puis il y a la peinture, et puis il y a surtout ne rien foutre, c'est important aussi.
Le nom de ce petit théâtre de marionnettes ?
Le théâtre transmissionnaire de la couverture chauffante.
Le théâtre transmissionnaire de la couverture chauffante.